Alors, je vais présenter Jeanne Vissérial, qui est à ma gauche.
Alors,
donc Jeanne, tu es designer textile vêtements. Donc, tu as différentes casquettes. Tu es aussi cofondatrice de la clinique vestimentaire qui développe au sein d'un studio des nouveaux principes de création textile. Par ailleurs, tu es doctorante aux arts décoratifs de Paris et tu proposes une thèse qui questionne les moyens de conception vestimentaire contemporain par le textile. Et depuis 2 ans, tu développes l'une de ces expérimentations en collaboration avec le laboratoire de mécatronique de l'école des mines de Paris, en vue de réaliser une machine robot capable de tisser des vêtements sur mesure à échelle semi-industrielle. Alors plus précisément, le clinique vestimentaire, donc ce studio de design, se définit en conscience de l'homme et de son anatomie. Et donc c'est un duo de designers et de chercheuses qui propose des concepts alternatifs à l'industrie textile contemporaine. Donc par ses recherches théoriques, scientifiques et pratiques, ces deux designers, dont Jeanne fait partie, développent des nouvelles approches de conception vestimentaire. Donc en alliant le sur-mesure et le prêt-à-porter, vous définissez un nouveau paradigme, le prêt-à-mesure. Alors sinon, ton actualité brûlante, c'est la sortie de la collection du studio clinique vestimentaire en septembre 2018. Et la soutenance de ta thèse en octobre 2018. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous pour parler de mode et de technologie. Donc moi, je vais vous présenter le studio clinique vestimentaire, qui est un studio de recherche, design et innovation, donc comme on vient de vous le dire. Juste pour commencer, juste une petite photo du duo, donc Jennifer Chambaret avec qui je travaille, qui n'est pas présente aujourd'hui, et on développe toutes les deux vraiment la partie plutôt design-produit ensemble. Et au sein du studio, il y a toute une partie en fait plus prospective et qui est plus liée en fait à la recherche pratique et on va dire théorique également. Donc c'est de cette recherche-là que je vais vous parler plutôt aujourd'hui. Donc moi, je suis doctorante SACRE, c'est un doctorat d'art, sciences et création recherche. Ce qui est assez intéressant en fait pour moi, c'est de pouvoir être inscrite dans une école qui est celle de PSL, donc Paris Sciences et Lettres, et de pouvoir en fait naviguer dans différents laboratoires qui en fait normalement en design vêtements ne sont pas accessibles. J'ai travaillé pendant 1 an et demi avec le laboratoire de sciences cognitives, par exemple, à la création de wearables connectés avec les encéphalogrammes EEG, par exemple, pour retranscrire l'activité électrique via le textile. Et en fait, ça permet de pouvoir naviguer dans le campus, ce qui est assez intéressant pour moi. Et aussi, c'est une thèse très particulière, c'est très récent, et en fait, j'utilise toutes mes expérimentations pour démontrer en fait chaque hypothèse par la pratique, et ensuite conjointement avec des bases théoriques que je viens en regard croisé en permanence dans cette thèse. Je reviens tout d'abord sur ma formation, puisqu'en fait, c'est de là que naît vraiment tout le concept. En fait, j'ai déjà commencé mes études par un diplôme des métiers d'art, où j'ai appris en fait le sur-mesure, l'étude morphologique et en fait la réalisation d'un vêtement plutôt de façon artisanale, selon la morphologie d'une cliente donnée. Donc vraiment, travailler avec un corps particulier, venir façonner son mannequin, mouler le vêtement directement, et vraiment des techniques, on va dire, d'artisan. Je suis rentrée ensuite aux arts décoratifs en équivalence, du coup dans la même promotion que Clara, où c'était un peu différent et j'ai eu un peu un choc en fait en arrivant, puisqu'en fait on ne nous a pas vraiment questionné sur le corps de notre cliente. On a travaillé directement sur des Stockmann normés du 36 au 42, et moi du coup j'étais assez perturbée puisque pendant 3 ans de ma vie avant j'avais vraiment un rapport avec le corps de ma cliente, et notamment en fait c'était du costume, donc le corps du comédien et ses interactions en fait réelles avec le vêtement. Et donc en fait j'entrais dans un monde plus de prêt-à-porter avec une idée de plan de collection et de travailler vraiment le vêtement en vue de produire une fabrication industrielle. Du coup je me suis retrouvée coincée entre deux notions qui m'étaient chères, donc le sur-mesure et le prêt-à-porter, parce que je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir dupliquer des modèles, mais j'étais pas très à l'aise en fait, je savais pas vraiment où me situer. Et donc, en fait, maintenant, depuis 4 ans, même 5 ans, en fait, parce que ça a commencé à l'écriture de mon mémoire qui s'intitule « Un corps sur mesure », où je questionne, en fait, ces questions de vêtements et d'anatomie et de corps. Et en fait, l'idée principale de ce projet clinique vestimentaire et de la thèse qui est éponyme, c'est comment réintégrer le sur-mesure aujourd'hui dans la conception vestimentaire. Donc à partir de là, l'idée c'est de repenser en fait quelque part un nouveau paradigme qui serait un mix entre le sur-mesure et le prêt-à-porter. Donc pour le moment, l'évidence était de l'appeler le prêt-à-mesure, mais ce n'est pas forcément figé. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser des notions du sur-mesure et des notions du prêt-à-porter et d'essayer de voir comment, conjointement, on peut proposer des nouveaux modèles de conception. Je ne vais pas faire un exposé sur l'histoire de la silhouette féminine. Ah oui, et en fait, on travaille pour le moment que sur le corps de la femme. Pour moi, c'était très intéressant, de par mes études en costume, de toujours avoir un regard croisé avec l'histoire du vêtement et de aussi constater qu'autrefois, quand on voit les variations des silhouettes dans le costume, de voir à quel point le vêtement, on utilisait autrefois le vêtement pour concevoir notre silhouette sur mesure, de par des variations, comme on le voit ben, ici avec, par exemple, les manches gigots, ces jupes qui prennent de l'espace, qui vont venir se resserrer en fait tout au long de l'évolution aussi des technologies pour arriver jusqu'aux années 60 et vraiment l'apogée, le vrai départ en fait du prêt-à-porter avec des silhouettes qui vont un peu laisser de côté tous les stratagèmes qu'on pouvait utiliser autrefois pour créer en fait cette silhouette sur mesure. Donc là, on le voit bien avec du coup les dessous. Cette première idée était venue aussi après l'exposition La mécanique des dessous qui avait eu lieu au Musée des Arts Décoratifs. J'avais vraiment aimé ce rapport entre la construction du coup, de cette silhouette vêtement et des stratagèmes qu'on pouvait voir en dessous. Et en fait, moi, j'en suis venue un peu à cette constatation de me poser la question donc depuis l'apogée du prêt-à-porter, quelque part, pour moi, il y a eu une inversion. Et aujourd'hui, on ne vient plus façonner son vêtement sur mesure pour exprimer une silhouette particulière, mais on va venir travailler son corps directement, un peu comme un... On le voit très bien dans la chirurgie, et donc ça, c'était très bien expliqué dans l'exposition. Donc maintenant, on va mettre les prothèses sous notre peau. On peut le voir aussi, là, depuis quelques temps, vraiment avec les cosmétiques. On n'a jamais autant consommé de cosmétiques. Les tatouages qui deviennent quelque part un espèce de bijou sur mesure. On vient traiter sa peau comme on vient traiter le cuir. Et en fait, c'est toutes ces dimensions-là de la nutrition, le sport, ce rapport au corps qui m'intéressait aussi dans cette étude-là, en fait, historique. Et du coup, pour moi, quelque part, la peau, aujourd'hui, elle est devenue un peu notre étoffe du 21e siècle, puisqu'en fait, le vêtement est quelque part normé, il y a la gradation, etc. Et en fait, voilà, la marge de manœuvre, en fait, aujourd'hui, même au niveau des catégories sociales, elle se situe vraiment avec notre rapport au corps. Et du coup, moi, en tant que designer, face à tous ces constats-là, je me posais la question de comment me positionner et comment construire aujourd'hui un vêtement en vue de toutes ces... constatation là. Et en fait, le plus évident pour moi, et en vue de ma formation, c'était de retourner à la base même, et du coup, le corps de l'individu, et d'essayer de voir, en fait, de comprendre l'homme, son anatomie avant tout, sans vraiment penser aux vêtements, et d'essayer de voir, en fait, ce que je pouvais tirer de ça. Et donc là, je vais vous présenter un premier projet. C'est de là que tout est parti, en fait, toutes les expérimentations, qui s'appelle 466 km fil. Donc, c'est la longueur totale de fil que j'ai utilisée pour réaliser cette première collection de diplômes. Et en fait, l'idée, elle est assez simple. C'était un peu de la biomimétie, de recopier en fait, les muscles et l'anatomie humaine par le fil. Et donc, en fait, pendant un an, j'ai essayé de développer des prototypes basé sur la fibre musculaire, avec aussi mon interprétation du designer, et d'essayer de vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'arrivais à avoir des masses musculaires juste en fil, et en fait je retissais les muscles, et du coup, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un peu pris au piège, et que du coup, j'étais aussi obligée d'utiliser des outils de chirurgie, puisqu'en fait, l'aiguille de couturier plate ne convenait pas. Et finalement, en fait, l'aiguille du chirurgien me convenait beaucoup plus. Là, à droite, vous avez des coupes de points de chirurgie qui sont en fait très similaires à des points utilisés dans la maroquinerie, ce qui est assez évident puisqu'il s'agit de peau. Quand on étudie un peu aussi les nœuds musculaires, on se rend compte que c'est des points de broderie qui sont utilisés assez souvent dans la corsetterie, puisqu'en fait, le corset est un vêtement anatomique qui a des découpes et clairement une analogie assez directe. Donc là, ça, c'était une toute première pièce que j'ai réalisée. Donc, il s'agit d'une jupe que je viens mouler en fait, sur un mannequin que je conforme. Alors ça, c'est une jupe qui est réalisée en 88 km de fil, monofile. Et en fait, là, on voit bien en fait, ces gros nœuds musculaires qui étaient très difficiles pour moi à fixer à cette époque-là, parce que j'étais en train de découvrir l'anatomie, de chercher des solutions, etc. Et du coup, de chercher les outils, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec pas mal de chirurgiens qui m'ont donné des outils qui ne fonctionnaient pas du tout, puis d'autres, en fait, qui m'ont... Puis après, du coup, moi, me créer mes outils. Et en fait, la première solution que j'ai trouvée pour... montrer un peu mon principe, c'était l'injection en fait de résine dans mes nœuds musculaires. Et là, on voit très bien en fait tous les modèles étaient réalisés à l'épingle. Donc là, c'est une robe qu'il y avait plus de 800 épingles qui venaient maintenir tous les nœuds. Et il y avait un moment en fait assez stressant puisqu'en fait, si on enlève une épingle, tout se défait. Et donc, j'ai passé pas mal de temps, beaucoup plus de temps dans l'atelier de résine. Que dans l'atelier de vêtements au final, parce que c'était la première solution que j'ai pu trouver. Il y avait aussi cette idée de sublimer des choses qu'on a l'habitude de désapprécier et de sublimer aussi cette partie interne et anatomique, vraiment comme un chirurgien. Et en fait, donc là, on voit les typologies de mannequins que j'utilisais, donc un peu avec ma déformation de costumière, je venais en fait créer... Ces mannequins avec une grille que je prévoyais d'avance pour savoir dans quel sens allaient partir mes fils, etc. Donc ça, c'est les premiers prototypes qui ont été réalisés. Donc là, la robe que vous voyez là, donc elle a perdu son volume, mais elle a été réalisée sur le mannequin parce que j'avais envie de prendre la conscience aussi. Quand on respire, on prend 5 cm. Une femme, elle varie de 3 à 4 cm en un mois, de 6 entre l'été et l'hiver, donc il y avait toutes ces notions-là qui ne sont pas prévisibles vraiment dans le mannequin Stockmann, et j'avais envie de les retranscrire. Donc ça, c'est les tout premiers prototypes, du coup, à la résine. Donc il y en avait des rigides et d'autres souples. Donc ça, c'était la collection, le plan de collection, le premier. Il y avait vraiment aussi cette idée, avec les premiers prototypes, de radiographie portative, d'essayer de révéler ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Avec aussi des pièces beaucoup plus oniriques et se rapprochant plus d'un travail presque de dentelle. Enfin, c'était vraiment une période d'expérimentation. Et en fait, avec cette dernière pièce, 150 km de fil, où je suis repartie de l'épine dorsale humaine. Alors après, j'ai un peu regardé, j'avoue, l'anatomie du cheval ou d'autres animaux, parce que du coup, pour faire le bas... Et je me suis inspirée un peu de tout ça. Et en fait, cette pièce, je l'ai réalisée du coup sur un gros mannequin que j'avais fait. Et elle m'a pris plus de 3 mois de réalisation. Parce qu'il faut mannequiner le mannequin. Ensuite, il faut faire toute la grille. Ensuite, il faut poser les plus de 800 épingles. Et ensuite, il faut passer le fil. Et à la fin, en fait, j'étais en train de devenir ma propre machine. J'avais mal aux yeux, j'avais mal aux bras. J'ai même pas calculé 3 mois. En plus, en tant qu'étudiante, on passait beaucoup de temps à l'école, donc je pense que j'ai même pas envie de savoir combien d'heures j'ai passé dessus. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un petit problème au moment où je l'ai démoulé du coup avec la résine. Le fil, il a déteint. J'avais eu un mauvais fil, et en fait, c'était rouge sang. Et en fait, j'ai eu vraiment un truc où je me suis dit, oh là là, enfin, ça sera la dernière pièce de ce type d'expérimentation là, parce que j'ai vraiment fait un écorché et. Et voilà, mais j'ai sorti cette pièce et c'était un moment fort. Et en même temps, je me suis dit, bon, je ne travaillerai plus comme ça, j'ai envie de trouver d'autres solutions. Et en fait, en voyant cette pièce aussi, je me suis dit, c'est intéressant parce que j'utilise un monofil, bon, je raccorde mes bobines. Et à cette époque-là, j'utilisais que des bobines issues des overlays, donc de l'industrie textile. Donc je récupérais énormément de fils. Donc la matière première me coûtait très peu d'argent. Cette pièce, elle a coûté 4 euros. En termes de matière, en termes de temps, un temps fou. Et en même temps, vu que j'étais en monofile, je créais aucune chute. Et donc, je me suis dit, en fait, là, je suis quand même en train de faire un vêtement anatomique, c'est intéressant, je ne produis pas de chute, et par contre, il y a un problème de temps. Et donc, d'où l'idée de rentrer en doctorat et de s'intéresser aux nouvelles technologies, donc sujet d'aujourd'hui, et de se demander s'il n'y avait pas moyen d'aller plus loin et d'imaginer peut-être une machine qui pourrait reprendre ce procédé-là. D'où cette hypothèse qui est une des hypothèses, mais on va dire la principale de la thèse, qui est par le développement de nouvelles technologies et la création de machines, il serait possible d'élaborer des vêtements tissés sur mesure, selon des données corporelles préalablement numérisées, afin de réduire les chutes textiles et d'ainsi proposer un sur-mesure à échelle industrielle. Alors, ça a beaucoup évolué. Évidemment, il y a des notions sur lesquelles je vais revenir. notamment le scan, etc. Et donc, le projet, c'est un projet de table de tricotissage sur mesure et zéro chute. Alors, je suis repartie de mes petits muscles. Et j'ai essayé du coup de ne plus travailler en 3D, mais de faire un déplié UV. Donc en fait, c'est remise à plat, comme quand on remet son patron à plat, et d'essayer de trouver en fait, des techniques qu'on peut mettre à plat afin de repenser ces modèles-là. Et en fait, au départ, je voulais faire une technique de prise de mesure. Donc l'idée, c'est vraiment de réintégrer la cliente au début de la chaîne. Parce que si on regarde le schéma du prêt-à-porter, on a une étude de marché, toute une phase de conception, de production, et ensuite une livraison dans les magasins, une distribution. Et en fait, la cliente, elle est présente à aucun moment, et c'est elle qui se déplace au magasin pour venir voir si elle correspond à sa taille S, M, L. Et en fait, moi, ce que je cherche à faire aussi dans ce travail et ce lien avec la technologie, c'est que je vais gagner du temps en production, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser un robot, et quelque part, ce temps que je gagne, je peux réintégrer la cliente au départ, et remettre la notion de prise de mesure. Et en fait, au départ, je travaillais sur un dispositif de Kinect qui vient scanner le corps, et en fait, je me suis rendu compte que les personnes étaient très mal à l'aise, que ça prenait du temps, et qu'en fait, la prise de mesure pour les modèles que je propose, ça me prend 10 minutes, et qu'en fait, il y a une vraie interaction qui me plaît, et de garder en fait, ce lien aussi artisan-client était intéressant dans un processus de conception. Donc, on a cette partie de prise de mesure. Donc, on récolte donc le corps de la personne. On va travailler sur la réalisation d'un patron où je propose une collection. Et ensuite, on envoie ce modèle à cette fameuse machine de tricotissage que j'ai la chance de réaliser maintenant depuis 3 ans avec le laboratoire dit d'électronique de l'École des Mines de Paris. Mais à vrai dire, en fait, c'est le département de mécatronique, puisqu'en fait, ce sont des technologies qui computent et l'électronique et la mécanique, et donc du coup, plus de la robotique, au final. Et donc, l'idée, c'est de travailler tout ce système d'épingles qui vient, en fait, positionner le patron, qui peut être asymétrique, enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses. Je ne vais pas pouvoir montrer la machine en tant que telle, puisqu'il y a des pots sur des points clés d'innovation, etc. Mais en gros, le principe, c'est assez simple. Donc, on vient donc tricotisser donc j'ai appelé ça le tricotissage, puisque c'est un mélange donc, à des parties de tissage et parfois de mailles, puisqu'en fait, maintenant, du coup, depuis 2 ans en parallèle, je développe aussi une recherche pour ne plus utiliser de résine, puisque c'était des vêtements qui devenaient pas portables. Et du coup, en fait, j'utilise un point qui est utilisé dans le jersey, principalement, pour venir faire mes arêtes, etc. Donc, d'où le nom du tricotissage. Donc, voilà, je vous montre vite fait une idée. Donc là, on lance... Donc ça, c'est la table, c'est le principe un peu informatique. Donc on va lancer le patronage. Donc là, je vous ai mis une forme assez simple. Et donc, il y a tout un positionnement d'épingles. Donc là, on voit quand même que l'estimation, c'est 7 minutes 40 pour placer les épingles et le passage du fil. Pour ce modèle-là, j'aurais mis à peu près 3 jours. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi de se rendre compte de la rapidité aussi qui est possible d'effectuer avec la création de robots et de machines. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la collaboration en fait, avec les ingénieurs et donc l'équipe avec qui je travaille. Puisque moi, par exemple, cette machine, il faut à tout moment que je puisse l'arrêter, si je veux continuer à la main, si je veux changer des épingles. Enfin, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait toujours ce rapport en fait, à la main. Et c'était des dialogues qui n'étaient pas forcément évidents au début, parce qu'avec eux, il fallait « Mais non, Jeanne, tu vas appuyer sur un bouton. » Et puis du coup, ça sera... Et moi, j'ai aussi envie que ça soit un moment, une table de création à des moments pour pouvoir... développer, je sais pas moi, si à un moment donné j'ai envie de changer mon modèle, j'ai pas envie que le robot ait la main sur mon travail. Donc voilà. Ça c'est une vue assez simple de ce que peut être, ce que est cette machine. Donc c'est un robot 3 axes qui marche à air comprimé. Donc c'est une machine qui est intéressante parce que du coup je pensais pas du tout, je l'imaginais sans bruit, etc. Mais en fait c'est il y a du bruit, elle chante, enfin, elle a aussi son humanité quelque part, donc c'est assez intéressant. Et du coup, voilà une partie de l'équipe qui travaillait sur le projet, puisqu'en fait j'ai la chance de travailler avec donc, les futurs ingénieurs de l'École des Mines. Là, vous avez une idée du volume de la table. Donc ça, ce sera un prototype de robot, c'est-à-dire qu'on peut faire principalement plus des hauts que des bas, parce qu'en termes de volume, et voilà. Et après, il faut voir la suite du projet pour peut-être voir pour un robot vraiment industriel, donc du coup, poursuivre peut-être un post-doc. Ou... Et donc là, c'est la partie, donc ça, c'est les étudiants des mines qui travaillent eux-mêmes en collaboration avec des étudiants de mécanique et d'électronique, donc ça fait une équipe à peu près de 35 personnes sur le... Sur le projet, c'est une véritable chance pour moi de pouvoir développer ça. Donc voilà vraiment pour la partie robotique et donc la recherche en cours. À côté de ça, donc du coup, comme je vous le disais, on est un duo de designers et donc on a fondé notre studio, donc Clinique Vestimentaire. Et on a envie, même si cette machine va être... la soutenance est en octobre, donc elle est, la démonstration sera en octobre. Donc on va pouvoir commencer à l'utiliser à ce moment-là. Mais en attendant, moi, j'avais... quand même envie de continuer de développer du textile et de continuer cette notion du sur-mesure. Et donc Jennifer, mon associée, qui a eu la même formation que moi, a toujours eu en fait des notions aussi de sur-mesure. Et du coup, là, on travaille ensemble en mêlant en fait son travail de coupe et du coup plus ma partie textile, afin de en fait penser donc du coup toujours dans cette idée de prêt-à-mesure des vêtements qui sont adaptables du 36 au 42. Donc en fait on a repris les tailles du prêt-à-porter pour le moment, et en fait toutes nos tailles sont adaptables, donc à aucun moment on veut savoir la taille de notre cliente. L'idée, c'est vraiment que le pantalon ait des systèmes de réglables assez simples au final, qui puissent en fait se moduler en fonction de sa variation et non plus se sentir comprimé dans son vêtement et de commencer à jeter aussi dans la longévité du produit. C'est quelque chose qui me paraissait intéressant. Et du coup, on prend une nouvelle mesure en compte, qui en fait, on a constaté dans l'industrie, est peu prise en compte, parce que moi, je suis très grande, du coup, tous mes pantalons sont trop courts, et mon associée est petite, et tout est toujours trop long pour elle. Et du coup, en fait, nous, on classe nos vêtements de 1m50 à... Et après, enfin, selon les demandes, en fait, on les classe par hauteur. Du coup, bah, juste une petite preview de la collection. Donc ça, c'est la collection qu'on va sortir, enfin l'intention, parce qu'en fait, les pièces ont pas mal changé, qu'on va sortir en septembre prochain. Donc il y a des pièces couture, qui sont juste des pièces expérimentales, des pièces entre les deux, et du coup, des pantalons et des pièces prêtes à mesure, adaptables, pour avoir un champ un peu varié. Donc là, on peut voir juste un peu une ligne, enfin une intention. Toujours dans cette idée aussi de travailler le textile et de, en fait, pour moi, ça continue d'être un laboratoire de continuer ce studio pour pouvoir développer d'autres techniques de fil. Et c'est en fait là-dedans que j'ai trouvé ma solution de tricotissage, en fait, en développant les pièces du coup avec Jennifer, qui évidemment n'avait pas envie d'utiliser de la glu et qui m'a poussée parce que moi j'étais là genre non, je veux faire encore des pièces, c'est pas grave. Et du coup, et ben toutes les deux, conjointement, on se pousse à aller plus loin. Et du coup, voilà. Et maintenant, je travaille avec notamment des fibres aussi fines que le cheveu pour avoir vraiment des tissages de qualité différentes. Et aussi des versions plus prêt-à-porter en intégrant les fils, par exemple ici, dans deux couches de mousseline, juste pour un aspect peut-être un peu plus onirique, on va dire. Voilà. Merci. Je suis allée hyper vite, non ?
Merci beaucoup. Une question, est-ce que ce projet qui est censé créer une nouvelle forme de prêt-à-porter, comment est-ce qu'on va mettre ça en place ? Est-ce que c'est, comment dire, des vêtements qui vont être abordables, des vêtements type, on va dire, Zara ou H&M, des choses qui peuvent rentrer dans le quotidien des gens facilement ?
Alors, à plusieurs échelles, oui. Dans un futur plutôt lointain, si j'arrive à développer des robots efficients, en termes de coûts, on arrivera à un sur-mesure égal au prix de Zara ou H&M, oui. Mais avec une technologie de tissage qui n'est pas forcément celle qu'on a l'habitude. Il y a aussi une empreinte de mon esthétique, enfin, donc, qui est particulière. Pour les systèmes qu'on développe au sein de la collection, totalement, puisqu'en fait, c'est juste une question de patronage. Donc le prêt-à-mesure, là, il est prêt à être produit en série et avec des systèmes de vêtements adaptables. Mais ça, c'est avec du tissu classique.
À travers cette question, c'était est-ce que on peut imaginer dans l'avenir que ce procédé serait vendu pour qu'il soit
démocratiser ?
Ouais, alors ça, c'est des grosses questions actuelles pour moi, puisqu'il y a des enjeux de brevets et de licences et des entreprises notamment assez importantes qui peuvent s'intéresser à ce genre de production. Et ça, c'est des questions, on va dire, plutôt personnelles, à savoir est-ce que je veux garder mon robot pour clinique vestimentaire, est-ce que je le vends à... ou est-ce que je fais un salon d'industrie textile et du coup je deviens plus une start-up de robots ou, et bah, moi pour le moment j'aimerais juste arriver à faire une démonstration correcte, être assez bien protégée et voir, mais effectivement pourquoi pas dans l'idée proposer ce genre de manipulation pour arriver à un zéro chute et en plus adaptable à des industries. Oui, c'est une question à laquelle je peux pas répondre maintenant parce que vraiment je sais pas où me situer encore. Pour le moment, j'ai envie de le garder un petit peu.
Est-ce que le robot marche ?
Le robot, il me fait peur, là. Il marche. Il marche à plein de... En fait, toutes les étapes fonctionnent. La dernière fois qu'on a tout mis ensemble, la carte a cramé. Donc, on a eu un problème assez... Parce qu'en fait, il a fallu tout recoder, tout refaire. Et là, les derniers tests, le positionnement des épingles, c'est parfait. Voilà, mais c'est hyper long de faire une machine et du coup, normalement, ça sera prêt en octobre. Ouais.
Qu'est-ce qui était le plus difficile pour la création de
Roche ? Trouver des partenaires. Parce que j'ai contacté beaucoup, enfin, je citerai pas de nom, mais déjà, je suis allée au début dans l'univers plus de la mode pour faire des contrats, par exemple, SIF, hein, faire une thèse avec une entreprise. Alors, du coup, dans la mode, on m'a dit, ben non, on n'a pas envie de faire. De robotique dans le textile, c'est hyper long. Bah, du coup, c'est de la recherche. Donc après, je suis allée plutôt dans le milieu de l'électronique, etc. On m'a dit, bah non, enfin, nous, on ne fait pas trop de la mode. Et du coup, j'ai fait, ah, cool, j'ai une bourse de thèse. Et puis, du coup, je peux contacter. Enfin, je ne savais pas trop où aller. Et finalement, en fait, je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Soft Matters aussi, à l'ENSAD Lab. Et notamment, mon directeur de thèse est ingénieur. Et en fait, on a fait plusieurs rendez-vous avec... l'école des mines, et en fait, le premier rendez-vous, j'ai voulu avoir un jargon très scientifique, et donc en fait, mon projet n'était pas du tout compréhensible, parce que je me suis prétendue ingénieur. Deuxième rendez-vous, j'ai présenté, on va dire, plus comme un designer, et troisième rendez-vous, on a commencé à développer un vocabulaire commun, et c'est à ce moment-là que c'est parti. Mais c'était vraiment ça qui a été l'enjeu le plus difficile, c'était de savoir où et avec qui, et en fait, moi, je ne savais pas quelle discipline... Parce que, en fait, j'aurais pu faire aussi un travail d'enroulement filamentaire, donc un peu comme en ingénierie dans la voiture, parce qu'en fait, tout est fait en enroulement filamentaire, donc j'aurais pu mettre mon mannequin, et ce n'était pas vraiment ça que je voulais faire. Il y a déjà beaucoup de recherches sur ce genre de choses. Du coup, voilà.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir si l'école des mines... existait-il déjà d'autres projets aux mines en rapport avec la mode, ou si vraiment vous êtes arrivé avec votre idée en créant quelque chose de toute pièce. En fait, c'est un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure avec Maud, c'est un peu la suite de cette conversation. J'aimerais savoir vraiment comment les mines ont reçu cette idée de mode. Je ne sais pas si je suis très claire.
Très bien, je pense. Parce qu'en fait, il y a un projet aussi qui est mené aux mines, enfin entre les mines avec le projet CARA, donc ils ont aussi des notions de ce qui est mode, luxe, etc. Mais dans le cours de mécatronique, assez bien, parce qu'en fait, c'était un projet page blanche, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a tout développé ensemble, donc les étudiants, ils étaient... ouais, c'était chouette. Et puis du coup, moi j'arrivais, donc il y en a qui me disaient, oui, alors moi j'ai... regarder le dernier défilé. Moi, du coup, j'étais plus du tout dans cette thématique défilé long 20. Et moi, j'étais... Ah oui, moi, j'ai regardé la dernière pince. Et du coup, en fait, c'est des moments assez chouettes. Et du coup, la notion de mode dans le cadre universitaire, ça existe puisqu'il y a des thèses en théorie. Mais c'est la première thèse en design pratique expérimental en mode, en fait. Et c'est un système qui existe en Angleterre, dans le Nord. Et en fait, ça, c'était aussi un truc très difficile pour moi au départ. C'était, en fait, quand on commence une thèse, on s'adresse à des pairs, et en fait, moi, en fait, j'avais pas trop de famille. Donc, du coup, je suis beaucoup allée en Angleterre, de voyager, ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait des écoles, comme à Borås, en Suède, qui développent aussi des doctorats par la pratique. Et donc, ça aussi, c'était important. Enfin, ça m'a rassurée.
Bonjour. Je sais pas, j'espère que j'ai bien compris tout ce que vous avez raconté, mais je suis déjà dans la prospective en me disant que je suis bluffée par cette, ce côté un peu révolutionnaire de la conception d'un vêtement. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, qu'on va scanner ses propres mesures depuis chez soi et d'un clic envoyer un fabricant qui vous fabriquera ce fameux presque prêt sur mesure, quoi, au lieu d'aller dans une boutique, ce qui est très triste d'ailleurs parce qu'on pourra plus s'acheter de petits hauts. Mais je veux dire, est-ce que c'est ça l'histoire en Alors, fait
mon histoire non.
Non, mais l'histoire de votre idée, enfin,
en fait,
elle pourrait éventuellement déboucher sur ce genre de, voyez, d'attitude vis-à-vis de la mode où on n'aurait plus de magasins presque. Enfin, ce qui est déjà le cas parce que les gens achètent beaucoup par Internet. Mais là, on commanderait pratiquement avec ce scan de ses propres mesures pour avoir quelque chose de sur mesure.
Alors, ouais, exactement, on pourrait imaginer ça. C'est pour ça aussi mon questionnement de vendre ou pas la machine. Parce que moi, dans mon cas, l'idée, c'est de plutôt repenser local et d'avoir en fait des antennes où les gens viennent et du coup, de plus utiliser le scan et de faire vraiment, de remettre du travail, du coup, au moment de la prise de mesure avant l'automatisation et de vraiment reconstruire. En fait, je me positionne un peu dans le post-artisanat, donc entre artisans et machines. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent déjà comme ça, notamment en Italie, avec des scans, etc., et des tailleurs, en fait, qui récupèrent des données. Et moi, je ne me situe pas du tout... En fait, vraiment, la technologie, elle est juste au niveau de la conception et de l'optimisation, en fait, du temps et de la matière. Après, effectivement, c'est des questions... oui, j'imagine que si on vend des robots comme ça, il y a des industriels qui seront ravis de pouvoir... faire du prêt à livrer maison, je ne sais pas.
En fait, en t'écoutant, il m'est venu une idée. Tu sais, moi, je suis assez fan de la manière dont tu as attaqué vraiment les problématiques à l'échelle du créateur, du designer de vêtements. Et je trouve que tu réponds très bien à ces problématiques, à plein de niveaux, même si ce n'est pas encore réplicable et extensible à toute l'industrie de la mode. Et en fait, je me pose la question de la machine en elle-même. Parce que c'est peut-être là, si on réfléchit dans une perspective vraiment de développement durable, on entend beaucoup parler en ce moment d'économie circulaire, mais cette machine, elle est gourmande en énergie au moment de sa production, au moment de son usage, et elle a une fin de vie aussi. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui t'intéresse? Est-ce que tu es jusqu'au boutiste dans cette voie, jusqu'à te demander, mais ma machine, que va-t-elle devenir? Parce que je gère des machines, tu sais, dans mon atelier, qui sont assez simples. Et je vois déjà le travail de maintenance au bout de 3 ans, alors que je les ai achetées neuves. Et je me dis, avec une telle machine, qui est quand même d'une relative complexité, qu'en est-il? Combien de temps je peux l'exploiter? Quelles ressources me demandent-elles? Et est-ce que ce sont des sujets... Enfin, est-ce que tu vas jusqu'à t'intéresser à ces sujets-là aussi? Ou est-ce que tu estimes que... Que non, c'est...
Oui, bah, tout à fait. En fait, dans le cahier des charges, à la base, l'idée, c'était déjà de ne pas faire une machine qu'elle reste quand même éthique. L'idée, là, on récupère tout, donc en fait, voilà. Et en termes de consommation électrique, etc., elle est très faible, en fait. Et l'idée aussi, c'est d'utiliser... parce qu'en fait, à la base, moi, j'utilisais des matières que je devais changer à chaque fois mes plateaux. Et l'idée, là, c'est de trouver aussi travailler sur les matériaux innovants pour avoir un système où, quand on plante les épingles, on n'est pas à changer cette matière aussi de support. Et qu'en fait, ça dure assez longtemps. En termes de maintenance, là, vu que la machine n'est pas finie, je ne sais pas combien de temps elle peut... quelle est sa durée de vie, etc. Mais oui, c'est des choses qui me... enfin, qui forcément me touchent, ouais.
Bonjour, c'est superbe ce que tu as fait. Et moi j'avais une question après avoir vu en détail ce que tu avais fait et après avoir vu le travail de Clara. En fait, il y a eu toute une première phase où il y a eu une démocratisation du software et il y a eu des mouvements dans lesquels on nage tous sans nécessairement le savoir qui sont l'open source et qui ont permis entre autres choses soit à des très très grosses sociétés de se monter et de survivre, soit à des gens totalement indépendants de monter des projets. On a pareil sur le hardware qui a offert entre autres choses les microprocesseurs que Clara et d'autres personnes vont pouvoir utiliser. Et dans tous les cas, ça a une portée dans la très grosse industrie et ça a une portée chez les artisans aussi. Est-ce que tu penses que dans tes problématiques de propriété intellectuelle dans lesquelles tu es plongé en ce moment, est-ce que tu penses que une machine comme celle-là ou toute autre machine, que ce soit impression 3D ou n'importe quel élément qui peut être utilisé par des designers dans une conscience de designer, peut suivre dans le cadre de la mode ce genre de voie, c'est-à-dire que ce soit utilisé par des gros industriels ou par des artisans, tout le monde bénéficie de cette espèce de pot commun de savoir et qui accélère la rapidité d'évolution et donc de perfectionnement en termes, par exemple, d'éthique ou de durabilité. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment idiosyncratique dans la mode qui est entre je ne sais quel univers, mais qui fait que personne ne veut complètement s'associer dans ces intersectionnalités. Est-ce que tu penses que quelque chose de la mode empêcherait ce genre de progression qui ferait s'effacer ces questions ?
C'est une bonne question. En fait, à la base, moi, je voulais faire une machine open source et un logiciel libre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la mode, ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des gens qui viennent regarder ce que tu fais, que voilà. Donc du coup, évidemment, déposer un brevet, etc., c'est des choses hyper importantes. Après, c'est à moi de voir comment je cède des licences, etc. Pour moi, c'est évident que, par exemple, une licence libre dans les écoles, avec plaisir. Voilà. Après, il faut voir, mais justement, on revient à la question de madame tout à l'heure sur qu'est-ce que la mode peut faire des nouvelles technologies, etc. Ça... Du coup, je pense qu'il faut y aller avec une temporalité assez douce et voir et peut-être céder à d'autres entreprises. Et essayer de... Il y a peut-être des conditions aussi. Du coup, on va arriver dans une autre phase, mais peut-être des conditions d'utilisation. On sait qu'il y a plein de soucis dans... Il y a plein de soucis dans la mode actuellement. C'est quand même c'est une des industries qui génère le plus d'argent, mais qui pollue aussi le plus au monde. Tout ce qui est wearable, etc., c'est intéressant d'un point de vue artistique, etc. Mais aussi, on commence à intégrer la technologie qu'on ne sait pas recycler. Et du coup, il va y avoir aussi tout un mouvement en fait, de labellisation de la mode où, en fait, comme le AB, en fait, on va avoir quelle est la composante de ma teinture, quelle est la provenance, comment les gens ont travaillé sur le vêtement que je porte, etc. Donc ça, mais on est en plein dedans, en fait. Là, il commence à avoir un peu un réveil en ce sens. Et ça, c'est... Mais du coup, ouais, je ne sais pas du tout encore.
En fait, ça me fait beaucoup réfléchir ces sujets-là. Et il y a un sujet qui a l'air un petit peu éloigné, mais qui est quand même exactement dedans. Il y a Tesla, que tout le monde connaît, qui fait des voitures. En fait, ils sont propriétaires de brevets, de leur propriété intellectuelle, sur beaucoup de software qui étaient et sont encore en avance sur leur temps. Et en fait, il y a 2 ans, ils ont décidé, c'est un peu un PR stunt, mais ils ont décidé d'offrir une licence pour n'importe quel fabricant d'automobile pour pouvoir exploiter une partie de ces technologies gratuitement. Et en fait, personne ne l'a fait. En fait, la problématique, elle tient à... quand on a inventé une technologie ou un truc comme ça, souvent, c'est très difficile de pouvoir la mettre en place dans un workflow qui existe déjà. Du coup, beaucoup de gens, dans des problématiques de propriété intellectuelle, s'imaginent les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On ne fait que le voir, du coup. Je peux comprendre tes questionnements maintenant, parce que c'est toujours un peu qui tout double. Surtout pour tous les efforts que tu as fait.
Moi, j'ai pas le recul. Et puis, à la base, j'ai juste fait une formation de couture. Du coup, je me retrouve dans des problématiques.
Bonjour. Donc, je suis pas du tout de l'univers de la mode. Mais je sais qu'il existe déjà des sortes de patronages sur mesure pour tout ce qui est chemise, etc. Ouais. Et donc, maintenant, on peut faire beaucoup de sur mesure. Donc, vraiment, la différence, en fait, ça serait que... même sur le sur mesure, il y a quand même des chutes, on va dire. Vous, il n'y aurait pas du tout de chute et ça serait du coup un matériau complètement différent. C'est ça, vu que c'est du fil, ça serait différent de ce qui existe déjà dans, par exemple, sur la chemise ou autre. On pourrait faire des chemises, par exemple, avec votre.
Je ne vais pas refaire ce qui existe déjà, mais du coup, c'est une typologie de textile qui est différente. Oui, il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces notions de sur-mesure. Il y a Electrum aussi à San Francisco. Il y a Emmanuel Torres à Londres qui a développé un spray de fibres. Enfin, il y a beaucoup de chercheurs. Il y a Suzanne Lee aussi qui développe des peaux en fait qui poussent avec des champignons, etc. Et je pense que nous, on situe tous en fait sur des nouveaux matériaux aussi. C'est en ce sens-là, en fait. Enfin, moi, je me suis tout. Enfin, j'ai pas envie de refaire une chemise.
C'est le matériau qui change du coup. Enfin, toi, c'est quoi comme matériau exactement?
C'est du fil. Tout est du fil. C'est juste la façon dont on l'agence. Du coup, c'est juste une typologie de matière différente pour la partie robotique. Après, pour la partie de vêtements adaptables, ça peut être avec n'importe quelle matière et la matière que je développe aussi. En fait, aujourd'hui, il y a aussi pas mal de confusion entre sur-mesure et customisation. Enfin, il y a beaucoup de gens qui proposent un système de sur-mesure et qui, en fait, te proposent de changer la couleur de ta chaussure et à cette partie-là, etc. Oui, mais c'est en même temps, c'est aussi du sur-mesure que de choisir la ligne de ton vêtement, etc.
Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez avoir inventé, vous allez peut-être être à la base d'une nouvelle machine à tricoter qui pourrait rentrer dans les maisons, ou la nouvelle machine Singer d'aujourd'hui. Parce que quand j'entends par exemple les gens dire on n'aura plus de magasins, mais ça a toujours été, parce qu'il y a eu les catalogues du bon marché, il y a eu les livraisons par correspondance, il y a eu la redoute. Moi, j'ai eu de la chance de connaître mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, et tout ça, ça commandait par correspondance. Donc, je crois que c'est uniquement le nouveau moyen, mais n'ayons pas peur du sur-mesure à distance. Et peut-être aussi, c'est une démocratisation, parce que qui avait un costume sur-mesure que les gens nantis, et qui s'achetait du prêt-à-porter pas toujours bien coupé. Donc, n'ayons pas peur de ce qui a existé hier, surtout et avant-hier.
Ouais, je suis bien d'accord. Et puis même, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est quand on se rappelle aussi des anciens magazines où on avait des patrons. Et ben moi, par exemple, je suis ouverte à ce que des étudiants ou des gens qui se mettent à la couture m'envoient leur patron pour qu'on tricotisse, par exemple. On essaye de voir en fait ce que ça donne dans une autre matière aussi. Enfin, et c'était aussi rendre à la maison un travail.
Merci, Jeanne.
Merci à vous.